Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez sur BPM pour cette émission hebdomadaire que sont les rendez-vous du Mantois, un moment privilégié avec un élu local pour échanger sur les problématiques de son territoire. Et en cette fin de semaine, nous sommes 20 minutes en direct en compagnie de Raphaël Cogné, maire de Mantes-la-Jolie. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble ce matin, nous allons aborder différents sujets comme la sécurité, un des points clés de votre politique, mais aussi l'uniforme à l'école, les rénovations énergétiques ou encore le contrat de ville. Nous parlerons également de la création de l'Académie des sports et enfin, nous ferons un point sur les prochains événements qui vont animer Mantes-la-Jolie. Tout d'abord, commençons par, je le disais, un des points les plus importants pour vous, la sécurité. La police municipale se renforce et cette fois-ci dans les effectifs, un animal, c'est bien ça?
Oui, exactement, c'est ça. On va voter lundi soir en conseil municipal la création d'une brigade cynophile à l'intérieur de la police municipale. Alors une brigade cynophile, c'est quoi? C'est un agent de police municipale qui vient avec un chien pour pouvoir détecter un certain nombre de choses que nous, les humains, ne pouvons pas détecter, notamment intervenir sur des points de deal, notamment pouvoir lancer un certain nombre d'enquêtes. Et donc, nous créons cette brigade lundi, en même temps que nous renforçons nos effectifs de police municipale, puisque nous sommes lancés dans une grande politique de recrutement il y a quelques mois. On avait d'abord recruté un directeur de la tranquillité et de la sécurité publique, et il est en train de constituer ses équipes. Donc, normalement, au 1er septembre, nous aurons 24 ou 25 conseillers municipaux sur le terrain, jour et nuit. Et donc, c'est la preuve que la police municipale à Mantes est en train de se restructurer. C'est une très bonne chose parce que la police municipale, c'est la police de proximité par excellence. C'est celle qui sécurise nos événements. C'est celle qui rassure nos commerçants. C'est celle qui maintient l'ordre dans toute la ville. Et donc, je suis très heureux que nos efforts en la matière et notamment nos efforts de réorganisation portent leurs fruits.
D'ailleurs, une brigade équestre va revenir. On sait que ça s'était terminé début octobre. Vous avez souhaité en recréer une autre?
Oui, parce qu'en fait, tous les modes d'intervention en matière de sécurité sont utiles. Donc, vous pouvez intervenir en moto, vous pouvez intervenir en VTT, à cheval. Chaque outil a son utilité. Et donc, nous avions des chevaux, nous n'avions plus de cavaliers, parce qu'il faut des cavaliers évidemment spécialisés pour monter ces chevaux. Nous sommes en train de recréer une brigade équestre. Et donc, dans les rues de Mantes, dans les prochaines semaines, vous verrez des chevaux, mais vous verrez aussi, comme avant, des interventions en VTT, des interventions à pied, en voiture. Et surtout, nous renforçons les effectifs et l'équipement de la police municipale parce que nos policiers doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et surtout, mon obsession à moi, c'est que les Mantais se sentent en sécurité le plus possible. On peut pas tout résoudre, mais en renforçant nos effectifs humains, en renforçant nos effectifs technologiques, parce qu'on va aussi déployer des nouvelles caméras sur toute la ville, et en travaillant toujours de façon plus fine avec la police nationale, on obtient des résultats et on fait en sorte que tout le monde puisse se promener à Mantes en toute sécurité.
En plus, pour compléter, vous créez aussi une brigade motorisée. Ça, il n'y avait jamais eu auparavant?
Non, il n'y avait jamais eu de brigade motorisée à Mantes-la-Jolie. L'idée, c'est qu'on ait des policiers qui puissent intervenir en moto un peu partout, dans toute la ville. Pour ça, il faut les former, il faut des policiers qui aient les bonnes habilitations. Et en même temps qu'on fait ça, on essaye de faire en sorte de recruter un maximum de formateurs et de moniteurs pour qu'on puisse faire nos formations en interne, à l'intérieur de la police municipale. Je ne sais pas si nos auditeurs savent qu'un policier municipal est obligé de se former tout au long de sa vie, régulièrement par exemple sur la manipulation des armes, mais après il peut aussi acquérir d'autres compétences. Donc on fait en sorte d'avoir toutes les compétences à l'hôtel de ville de Mantes et à la police municipale pour pouvoir former nos policiers en interne, les faire monter en qualification et les faire monter aussi en intérêt du travail.
Une question, pourquoi souhaiter autant de sécurité?
Parce que tout le reste ne marche pas si vous n'avez pas une sécurité. C'est pas la peine de travailler sur le commerce, par exemple, si personne ne se sent en sécurité dans notre centre-ville. C'est pas la peine de demander aux commerçants du Val-Fouré de faire des efforts en matière de propreté si devant leur magasin, il y a des trafics de cigarettes ou du trafic de stupes. Donc, la police municipale, elle n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, notamment les enquêtes, etc. Ça, c'est la police nationale qui s'en occupe. Mais pour intervenir en hyper-proximité, je pense aux squats, je pense aux gens qui sont alcoolisés le soir, je pense aux gens qui troublent l'ordre public, la police municipale, c'est le bon outil. Et comme il y a une très grosse concurrence entre les villes pour embaucher des policiers municipaux, il faut avoir un vrai projet de police municipale et surtout avoir les bons équipements et les bons encadrants. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Ça a été compliqué, ces recrutements?
Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, on manque de policiers municipaux en France. C'est un métier qui est un métier difficile. Vous êtes exposé, vous pouvez éventuellement risquer votre vie, vous avez de grosses responsabilités. Et donc, on manque de centaines de milliers de policiers municipaux en France. Donc, la ville de Mantes était assez peu attractive. Là, on est en train de la rendre attractive sur des questions d'organisation du travail, de salaire, d'équipement. Et j'ai l'impression qu'on est en train de gagner cette bataille. Rien n'est jamais gagné, mais là-dessus, depuis quelques mois, on a vraiment avancé.
un point du prochain conseil municipal qui aura lieu lundi, ou plutôt un vœu en l'occurrence, celui de l'uniforme à l'école.
Oui, c'est une possibilité que nous a donné le gouvernement il y a plusieurs mois, c'était de savoir si les maires souhaitaient ou non pouvoir autoriser les écoles qui le souhaitent à proposer un uniforme. Donc nous allons prendre un vœu en conseil municipal lundi prochain pour dire à toutes les écoles de Mantes, toutes les écoles publiques, que si elles le souhaitent, à la rentrée prochaine, la ville autorisera la création d'uniformes et participera financièrement au fait d'acheter cet uniforme. Après, ce sont les écoles qui choisissent, c'est elles qui sont libres de l'inscrire ou non dans leur projet pédagogique. Mais nous, en tout cas, nous allons voter ce vœu en conseil et offrir cette possibilité aux écoles. L'uniforme à l'école, c'est pas la solution de tous les problèmes, mais je pense que ça peut résoudre un certain nombre de choses en termes de climat scolaire, en termes d'égalité des enfants, etc. Et donc, nous allons voter ce vœu et ensuite proposer au directeur qu'il souhaite de mettre en place cet uniforme. C'est eux ensuite et leur conseil d'établissement qui décideront.
Pour bien comprendre le fonctionnement, c'est-à-dire que le gouvernement a proposé, ou en tout cas souhaite mettre en place cela.
Souhaite donner cette possibilité aux écoles qu'ils souhaitent.
Les maires ensuite le valident.
Les maires l'autorisent dans leur commune et ensuite chaque école choisit ou non de recourir à l'uniforme.
Ce serait possible de le mettre en place à partir de quand ?
À partir du mois de septembre, mais ça dépendra des équipes pédagogiques dans les écoles qui décideront ou non de recourir à l'uniforme.
Aujourd'hui, vous avez déjà un premier ressenti des écoles sur ce sujet-là ?
Pour l'instant, ce qui nous remonte des écoles, c'est que les écoles vont très peu faire appel à l'uniforme, voire pas du tout. Mais il peut y avoir des changements pédagogiques dans certaines écoles. Il peut y avoir aussi des écoles qui changent d'avis. Donc nous allons ouvrir cette possibilité et ensuite les écoles décideront chacune ce qu'elles souhaitent faire.
Quel pourrait être le coût pour la ville ?
Alors en fait, ça dépend de ce qu'on choisit comme uniforme. Évidemment, si vous mettez tout le monde en costard-cravate, c'est pas tout à fait le même prix que si vous mettez tout le monde en jean et en polo. Mais nous, on a prévu, en gros, j'en ai discuté avec quelques collègues, une fourchette de 200 euros pour l'achat d'uniforme, dont la moitié est prise en charge par l'État. On n'en est pas du tout là. On peut aussi décider de mettre un petit logo sur les polos des enfants. On peut décider de le faire de façon participative avec les équipes pédagogiques. Pour l'instant, on est vraiment à la phase où on dit aux écoles c'est possible. Et ensuite, si certaines écoles nous sollicitent, on les accompagnera, y compris évidemment financièrement.
On a vu que pour le moment, dans les Yvelines en tout cas, seul Poissy et Plaisir s'étaient engagés dans cette expérimentation. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place ou en tout cas à faire accepter ?
Je pense que c'est derrière l'uniforme, il y a parfois beaucoup de tabous. Il y a des gens qui vous disent que c'est un très bon outil, d'autres qui vous disent que c'est un très mauvais outil. Donc c'est une idée qui progresse lentement. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va tout résoudre. C'est pas parce que les gamins sont en uniforme qu'on va faire disparaître les problèmes sociaux, éducatifs, économiques. Mais par contre, dans certains endroits, à certains moments, ça peut être utile de recourir à ça parce que ça résout un certain nombre de problèmes, notamment d'égalité économique, etc. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on... Comme je crois beaucoup à la liberté pédagogique, c'est qu'on donne aux enseignants la possibilité de le faire s'ils le souhaitent. Et puis après, on verra à quelle vitesse les idées progressent.
Autre sujet du conseil municipal, le contrat de ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors le contrat de ville, c'est un contrat que la ville de Mantes-la-Jolie passe avec l'État tous les ans pour obtenir un certain nombre de financements supplémentaires pour mener un certain nombre d'actions en quartier politique de la ville et notamment dans le quartier du Val-Fouré. Donc le contrat de ville, c'est un contrat où l'État finance en direct un certain nombre d'associations qui participent à la cohésion sociale et au bien commun, et en même temps donne de l'argent à la ville, plusieurs centaines de milliers d'euros, pour qu'elle-même finance un certain nombre d'associations. Tout ça est travaillé évidemment à plusieurs voies, entre l'État, la ville, et puis les autres collectivités locales, comme la communauté urbaine. Et donc, ce contrat de ville donne lieu à une négociation tous les ans. Nous avons abouti dans nos négociations, donc nous votons ça en conseil municipal lundi soir prochain.
Et ensuite, chaque partenaire a des actions précises à mettre en place, c'est ça ?
Exactement, il y a un certain nombre d'axes dans le contrat de ville. Donc ça peut être l'éducation, ça peut être la parentalité, ça peut être le développement de la cohésion sociale. Et ensuite, nous donnons de l'argent à des acteurs locaux, associatifs notamment, pour qu'ils mènent un certain nombre d'actions. Et puis chaque année, ils nous présentent des bilans chiffrés pour nous dire comment ils ont utilisé cet argent. Et à ce moment-là, on décide ou non de reconduire les actions l'année suivante.
Comment ça se travaille justement sur ces choix d'actions ? Comment ça se détermine ?
Bon, ça se travaille avec une bonne connaissance du tissu associatif local, en étant à l'écoute des associations qui viennent nous proposer des projets, en leur disant aussi que ce qu'on veut, c'est qu'elles rentrent dans un cadre précis et qu'elles puissent s'inscrire dans ce que nous, on souhaite pour la ville. Et c'est dans un dialogue constant entre l'État, nous et les associations qu'on monte ce projet. J'ai mon adjoint aux associations, Olivier Barbier, j'ai mon adjoint au renouvellement urbain et à la cohésion sociale Ibrahima Diop, qui travaille, qui rencontre les associations et qui ensuite détermine comment on répartit l'enveloppe financière.
Tout autre sujet, un grand changement va arriver dès cet été à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce qui attend les Mantais pour l'Hôtel de Ville ?
Alors, ce qu'attend les Mantais, c'est que on vient de lancer des travaux très très importants à l'intérieur de l'Hôtel de Ville du centre-ville. Donc, nous avons déménagé les équipes de l'état civil et procédé à un certain nombre de réaménagements internes. Et là, on rentre dans une période où on a au moins 16 mois de travaux très importants. Pour deux raisons. La première, c'est que je n'étais pas satisfait de la façon dont nous accueillons physiquement le public à l'Hôtel de Ville. On a un très grand hall d'accueil qui était pas très utile, et à côté de ça, nos collaborateurs travaillaient dans des tout petits bureaux et travaillaient dans de mauvaises conditions. Donc, on avait le choix de bricoler et continuer à bricoler pendant des années. Il n'y a pas eu de travaux à l'Hôtel de Ville depuis extrêmement longtemps, donc c'est un bâtiment qui est complètement dans son jus, on va dire. Ou bien faire ce que j'ai décidé avec toute mon équipe municipale, c'est-à-dire de faire de très gros travaux qui vont durer plusieurs mois et qui vont nous permettre d'élargir les bureaux des collaborateurs, d'accueillir le public dans de bien meilleures conditions, avec des méthodes beaucoup plus modernes, du mobilier aussi beaucoup plus moderne. Et donc ce qu'attend les Mantais dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est beaucoup d'embêtements quand ils iront à l'hôtel de ville principal. Nous y maintenons à l'accueil, mais nous avons renforcé nos équipes à la mairie de quartier de Gassicourt et à la mairie de quartier du Val-Fouré, pour notamment pouvoir prendre tout ce qui est passeport, carte d'identité dans de bonnes conditions. Et pendant ce temps-là, dans l'hôtel de ville, nous commençons des travaux très importants. Donc les équipes ont déménagé en fin de semaine dernière. Et là, nous sommes dans la phase de préparation de chantier, puisque ça va être des travaux. On a de l'amiante, on a un certain nombre de substances qu'il faut qu'on traite avec précaution. Et nous allons faire quasiment 2 millions d'euros de travaux à l'intérieur de l'hôtel de ville. En même temps que nous allons faire des travaux d'isolation à l'extérieur de l'hôtel de ville, puisque notre hôtel de ville actuellement est un gouffre, une passoire énergétique, ce qui fait que ça nous coûte très cher à chauffer et on obtient des résultats qui sont pas très bons. Et donc, en même temps qu'on fait les travaux à l'intérieur, on va aussi changer des fenêtres et faire de l'isolation par l'extérieur pour que ça nous coûte moins cher en fuel et en gaz dans les années qui viennent. Donc, c'est un très gros chantier qui nous attend et c'est un chantier qui, je pense, nous permettra vraiment de faire en sorte que l'hôtel de ville soit beaucoup plus accueillant pour nos visiteurs et pour nos collaborateurs.
Avant de revenir sur les rénovations justement énergétiques, est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi on va s'attendre pour cette future mairie, ou en tout cas cette mairie rénovée ?
Alors, je vais pas tout décrire parce que je tiens à garder un peu de surprise, parce que c'est des travaux qui vont durer longtemps et j'espère qu'à la fin le résultat sera là. On peut s'attendre, par exemple, aujourd'hui, vous savez, à Mantes-la-Jolie, on est comme dans toutes ces administrations où il y a beaucoup de guichets qui sont un petit peu impersonnels, où tout le monde est à côté les uns des autres, etc. Bah là, on va mettre des cabines pour pouvoir accueillir les visiteurs en toute confidentialité. On va aussi renforcer la sécurité de l'hôtel de ville, parce que aujourd'hui, tout le monde peut rentrer. Alors, on a fait des efforts, mais aujourd'hui, les flux visiteurs sont un peu compliqués à l'intérieur du hall, donc il y a parfois des gens qui rentrent sans raison, etc. Donc vous pouvez vous attendre à quelque chose de beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus respectueux de l'environnement, et dans lequel, surtout, j'insiste là-dessus parce que c'est invisible pour tous les gens qui vont à l'hôtel de ville, une qualité de travail pour nos collaborateurs bien supérieure, parce qu'aujourd'hui, ils sont entassés dans des bureaux de 4-5 mètres carrés dans lesquels ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Donc en même temps qu'on fait tout ça pour nos habitants et nos visiteurs, on va évidemment travailler pour que nos collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions possibles.
Les travaux de rénovation énergétique, hein, justement, on en parle, ils sont aussi prévus d'ailleurs du côté du centre technique municipal.
Oui, parce qu'en fait, on essaye d'utiliser nos bâtiments au maximum. Utiliser nos bâtiments, ça veut dire rénover ce qui doit être rénové. Et ça veut dire aussi profiter de nos bâtiments pour essayer de produire de l'énergie. Donc là, par exemple, on va déployer des panneaux solaires sur l'Agora pour récupérer de l'énergie photovoltaïque. On va faire la même chose au CTM. Sur le toit du CTM, on est en train d'étudier la possibilité de déployer des panneaux solaires et de mettre des ombrières sur nos parkings, c'est-à-dire des panneaux solaires sur le parking du centre technique municipal. On a déjà construit une cuve pour récupérer l'eau de pluie qui ruisselle sur le toit du CTM pour pouvoir l'utiliser quand on arrose nos plantes, etc. Donc, on est en train d'essayer de moderniser nos bâtiments et leurs alentours pour faire en sorte qu'on soit obligé d'acheter moins d'eau et moins d'électricité, moins de gaz et moins de fuel. Donc, c'est dans une démarche évidemment développement durable, et c'est aussi dans une démarche d'économie, parce que ce qui coûte très cher à l'hôtel de ville, comme d'ailleurs dans tous nos foyers ici, c'est les hausses de gaz et d'électricité qu'on a eues l'année dernière, qui nous ont coûté plusieurs millions d'euros. Donc quand le gaz et l'électricité fluctuent en France, les collectivités étant de très gros consommateurs, les additions s'envolent. Et donc du coup, on essaye maintenant, à chaque fois qu'on a un bâtiment, d'essayer de l'optimiser pour optimiser ses ressources et faire en sorte que la facture d'énergie diminue dans les années qui viennent.
En parlant des coûts, une autre délibération du conseil municipal lundi, c'est le compte administratif. Comment se portent les finances de la ville?
Alors le compte de gestion et le compte administratif, c'est un compte qui est fait par le trésorier payeur général de la collectivité, donc qui est fait par quelqu'un qui est extérieur à la collectivité pour prendre une fois par an une photo des comptes de l'hôtel de ville. C'est un peu notre clôture annuelle, si on devait résumer un peu comme dans le privé. Et les finances de la ville vont bien. On a une capacité d'autofinancement qui se maintient, c'est-à-dire la différence entre nos recettes et nos coûts. C'est notre excédent, c'est celui qui nous permet d'investir. Donc aujourd'hui, nous sommes une ville assez peu endettée, puisque nous avons 35 millions d'euros de stock de dette, ce qui est très faible au regard de nos capacités contributives. Nous n'avons pas augmenté les impôts fonciers à Mantes, la part de la ville, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on peut dire que la ville se situe dans les villes, non pas riches, parce que nous sommes une ville pauvre, mais bien gérée, ce qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre.
En ce moment, quatre lettres cristallisent les tensions dans les Yvelines. LNPN, le petit nom pour la ligne nouvelle Paris-Normandie. Quelle est votre position sur ce sujet?
Ma position, c'est d'être solidaire de la position des maires de la communauté urbaine et puis en tant que maire de Mantes, de ne pas me résoudre à ce qu'on ait tous les emmerdements de la LNPN dans le Mantois et aucun avantage. Vous savez, dans le Mantois, on a souvent été vécu comme un territoire de relégation. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes loin de Paris, vous êtes à la limite de la Normandie, donc on va pouvoir mettre chez vous ce qui dérange ailleurs. Donc là, depuis quelques mois, on a la LNPN qui doit passer sur des terrains sur lesquels nous avions des projets économiques et sur lesquels on nous dit, en fait, vous pouvez pas faire ces projets économiques parce qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire dans plusieurs années, etc. Deux, on a la prison à Magnanville qui n'est pas une bonne nouvelle pour notre territoire. Donc, si vous voulez, les élus du Mantois, dont je suis le maire de la ville la plus importante, ont parfois l'impression que on est en train de devenir la poubelle des Yvelines, au sens où tout ce qui ne va pas ou tout ce qui pose problème ailleurs, on va le faire ici. Donc la LNPN, c'est un sujet pour les Normands, je le comprends très bien. Leur idée, c'est d'arriver plus vite à Paris. Mais les Normands ne peuvent pas nous dire, on va faire plus de trains, consommer des terres agricoles chez vous, ne pas s'arrêter à Mantes-la-Jolie et vous mettre tous les emmerdements possibles. Donc pour l'instant, on n'est pas satisfait ni du tracé de la LNPN, ni de la façon dont ce dossier est monté. On a l'impression que la concertation qui est menée par les autorités publiques est une fausse concertation dans la mesure où on nous demande notre avis, mais dès qu'on le donne vraiment, on prend des décisions qui sont complètement contraires. Donc on va continuer à se battre pour faire en sorte que cette ligne ne soit pas un grand n'importe quoi posé au milieu de notre territoire. Donc on est solidaires entre maires et on va continuer à se battre pour faire, j'espère ne pas aboutir ce dossier, qui va coûter des dizaines de milliards d'euros pour quelques trains par jour et tout ça pour gagner 10 ou 15 minutes pour aller au Havre ou à Rouen. Donc très honnêtement, on pense que le jeu des finances publiques n'en vaut pas la chandelle.
Finalement, sur le fond, vous n'êtes pas totalement contre, mais juste pas en l'état, c'est ça?
Que les Normands veuillent aller plus vite à Paris, ça c'est le problème des Normands. Moi, je dis pas au président de la région Normandie, au maire du Havre, au maire de Rouen, ce qu'ils doivent faire. Par contre, comme ça passe chez nous, on estime qu'on peut pas dire, c'est pas votre ligne, donc on va consommer tout ce qu'on peut consommer chez vous pour amener les Normands plus vite à Paris. Donc si la LNPN doit se faire, elle doit se faire en concertation avec les élus du coin. Et il faut que les Normands soient un petit peu à l'écoute de nos problèmes.
Pour finir, on va finir sur quelque chose de plus sympathique, de plus détendu avec le retour des beaux jours. Les rendez-vous ne vont pas manquer avec tout d'abord les réunions de quartier que vous allez reprendre.
Oui, exactement. Vous savez, il y a une tradition à Mantes qui est que au début de l'été, au printemps, on reprend les réunions de quartier. Donc là, on va les reprendre dans tous les quartiers de la ville. La première aura lieu le 22 mai au centre-ville à l'école Curie. Ensuite, on enchaîne par Gassicourt, puis le Val-Fouré. Donc ce sera tous les mercredis à 19h et tout sera évidemment publié sur le site Facebook de la ville.
Pourquoi ce sont des temps forts importants pour vous, cela?
Parce que ça permet d'avoir une rencontre directe avec nos habitants, sans filtre. Il y a souvent pas mal de monde qui se déplace. Ça permet aux habitants de nous interpeller directement sur un certain nombre de sujets. Puis, pour les équipes municipales et pour moi, c'est un bon moment de rencontre en direct avec la population. C'est pas le seul de l'année, parce que moi, j'ai des permanences du maire toutes les semaines, dans tous les quartiers de la ville, etc. Mais là, c'est un moment un peu fort et un peu sympa. Et puis surtout, quand on en est aux réunions de quartier, ça veut dire que l'été arrive, donc on a bien besoin, ici comme ailleurs, d'un peu de meilleur temps et des températures un peu plus hautes. Donc ça va être des moments conviviaux et sympas.
Et des moments conviviaux et sympas, il va y en avoir, y compris dans un mois tout pile, avec le Festival Sixième Monde.
Oui, parce qu'en fait, à Mantes, il y avait le souvenir, chez un certain nombre d'anciens, d'un festival, d'un carnaval, qui avait marqué les esprits. Donc j'ai souhaité que cette année, on reprenne cette habitude. Donc ce sera le 24 mai prochain. Ça va commencer par une grande parade des écoles, donc toutes les écoles de la ville, ou en tout cas entre 2200 et 2500 élèves vont converger vers le stade nautique international, dans lequel il y aura un éco-village sport et culture. Évidemment, tout ça va se mettre aux couleurs de l'olympisme, puisque nous sommes en année olympique et que les Jeux olympiques arrivent à grands pas. Et donc, j'aime bien ce symbole que tous les élèves de la ville convergent vers un seul point où il y aura des animations et un moment sympa. Donc, ça va être un bon moment et puis surtout un moment de fête pour toutes nos écoles et un bel événement pour nos gamins en fin d'année.
Et ce sera le mot de la fin. Monsieur le maire, merci.
Merci.
Je tenais également à remercier la technique de BPM sans qui cette émission en direct n'aurait pu être possible. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission et les précédentes sur notre site internet bpmlaradio.com. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour le flash d'informations locales. À très vite pour une nouvelle émission sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.